Maintenant que nous comprenons un peu mieux comment fonctionne la mémoire et les différents types de mémoire que je vous ai présentés dans le podcast numéro 1, et bien maintenant on va laisser la place aux éléments qui favorisent une bonne mémorisation. Ce sont des facteurs sur lesquels on peut jouer pour faciliter la mémoire. Et j'en ai réuni 17 que je vous présente dès maintenant. Donc le premier, c'est l'attention. Il est impossible d'apprendre si on n'est pas attentif. Ça paraît être évident. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus. Le geste d'attention, comme l'appelle de la Garandry, c'est le fait de se focaliser volontairement et consciemment sur un objectif. C'est-à-dire que je peux lire ma leçon sans être capable de dire un seul mot de la phrase que je viens de le lire. Même si ça fait 4 fois que je lis la même phrase. Parce que quoi ? Parce que je ne suis pas attentive, parce que mes pensées sont ailleurs, qu'elles vagabondent, que je suis préoccupée par autre chose, etc. Donc si je veux passer moins de temps à apprendre et être plus efficace dans mon projet de mémorisation, eh bien je dois avoir un projet d'attention, un geste d'attention. Je dois être attentif, attentif volontairement. Donc il vaut mieux travailler sur des courtes périodes mais être attentif de A à Z que travailler sur des longues périodes et puis ne pas être concentré, ne pas être attentif. Deuxième facteur, donner du sens et un but, avoir des objectifs clairs. Ça passe par le fait de comprendre à quoi va servir la chose que je dois apprendre. Il faut qu'il y ait une utilité ou alors que ça s'inscrive dans la logique d'un ensemble plus global, je vais y arriver. Pour quelqu'un qui ne trouve ni utilité ni but concret à un apprentissage, ben il va rester sur le fait, par exemple, de se lancer des défis. L'objectif, c'est vraiment toujours de trouver un objectif qui soit clair. Et donc, le fait de se donner un défi, eh ben, ça permet de se challenger et donc ça nous booste. La nouveauté qui est véhiculée par le challenge ou le défi ou la nouveauté de ce qu'on est en train d'apprendre tout simplement, ça peut aussi être un facteur de motivation. Ça permet de développer de nouvelles compétences, de gagner en ouverture d'esprit. Et puis, si en plus on associe à tout ça le jeu et le plaisir, alors la motivation est décuplée. Donc premièrement, l'attention. Deuxièmement, donner du sens, un but, avoir des objectifs clairs. Troisièmement, la curiosité. Il faut savoir qu'on est tous curieux. On est du verbe naître. Un bébé, il va tout mettre dans la bouche et toucher à tout parce qu'il est curieux. Et comme ses mains et sa bouche sont les deux organes qui lui permettent de comprendre le monde qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'il met tout à la bouche et qu'il touche tout, parce qu'il veut savoir quel effet ça fait comme sensation, si c'est froid, si c'est chaud, si c'est dur, lisse, rugueux, mou, si ça pique, si ça a un bon goût, etc. Et en grandissant, l'enfant reste curieux. Il pose plein de questions. On a toujours en tête la phase justement des pourquoi des enfants qui sont dans cette période où en fait ils cherchent à tout comprendre et maintenant ils ne cherchent plus à comprendre par les mains et par la bouche mais par l'intellectuel, par la réflexion, par la logique. Certaines des questions, on n'a pas du tout de réponse, mais c'est pas grave. Par contre, qu'est-ce qui se passe après cette phase? Comment un enfant de 4-5 ans qui est dans sa phase pourquoi va devenir, ou peut devenir à 13 ans, comme la majorité des pré-ados et des ados, un ado blasé que rien n'intéresse à voir ses jeux vidéo et ses films? Je pense sincèrement que c'est notre rôle d'adulte qui va influencer le fait de cultiver ou de tuer la curiosité d'un enfant. Alors comment on peut cultiver cette curiosité? Déjà en acceptant ses questions, en étant honnête quand on n'a pas la réponse, en ne jugeant pas ses questions idiotes ou inutiles, en lui proposant de chercher la réponse par lui-même et puis de la chercher ensemble si jamais vraiment il ne trouve pas, en lui proposant des questions avant de lire un cours, un texte, une nouvelle leçon pour l'aider à trouver les réponses dans le texte au moment où il va lire. Du coup, il a un intérêt à lire le texte puisqu'il va chercher les questions en même temps qu'il lit, en faisant des choses nouvelles aussi. Et puis, un dernier point qui me semble important, c'est de ne pas l'humilier quand il échoue et au contraire d'encourager la recherche de solutions pour faire mieux la fois suivante. Quatrième facteur qui permet de mieux apprendre, c'est le fait d'expérimenter, de faire des erreurs et d'être actif. En fait, quand on est acteur de ce qu'on apprend, on retient plus de 75% de ce qu'on reçoit comme information. C'est bien plus efficace que juste de participer. Être acteur, c'est pas juste participer. Être acteur, c'est oser mettre en pratique, c'est prendre des décisions, c'est choisir, c'est tester, c'est faire des erreurs, accepter ses erreurs, accepter que cette erreur, c'était juste pas la bonne solution et qu'il y en a d'autres, et donc recommencer. Et j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Cinquième facteur qui permet de mieux apprendre, l'enthousiasme et ou la passion. Le cerveau a plusieurs états de conscience et en fonction de ces états, les signaux électriques qui sont envoyés par notre cerveau ne sont pas les mêmes. Le sommeil profond, on l'appelle l'état delta. Lors d'un sommeil léger et d'un état de rêve, c'est l'état θ. Lorsqu'on est réveillé, qu'on est alerte, on est dans un état bêta. L'état bêta, c'est celui que tous les adultes expérimentent au quotidien, quand ils sont réveillés. On est concentré sur tout ce qu'on a à faire, on est dans une pensée de logique, de raisonnement. On peut basculer aussi très facilement dans le stress et l'anxiété. Quand on n'est plus détendu, les ondes cérébrales vont ralentir et on appelle ça l'état alpha. C'est un état qui est génial pour apprendre parce qu'il n'y a pas de stress, comme je vous l'ai dit. On est dans un système où le cerveau traite les informations, il les stocke et il peut les ressortir. Et cet état alpha, c'est l'état qu'on éprouve quand on est absorbé dans la tâche que l'on fait ou lorsqu'on se relaxe. C'est un état qui permet de mieux mémoriser, de mieux se concentrer, de mieux apprendre et d'être aussi plus imaginatif. C'est un état que les enfants vivent beaucoup plus naturellement que nous, adultes. Malheureusement, on a tendance à les orienter vers l'état bêta, comme si c'était celui-là qui permettait d'être plus responsable et accompli. Sauf qu'en fait, ce serait plutôt à nous de redevenir des enfants dans certains domaines et de réapprendre à vivre l'état alpha. Tout ça pour dire que nous devons favoriser des expériences et faire preuve de créativité pour fournir de l'enthousiasme et de la passion aux enfants. Le sommeil est le facteur numéro 6. C'est une période qui est indispensable pour que le cerveau reconnecte, fasse les connexions de tout ce qui a été capté pendant la journée. Je suis désolée, là où j'enregistre, il y a un peu de bruit à côté. J'espère que ça ne gênera pas trop. Donc, un minimum de 7 ou 8 heures, c'est vraiment la base pour un enfant, même si on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais un enfant a vraiment besoin de minimum 7 ou 8 heures de sommeil. Parce que quand on est fatigué, ben on a du mal à rester attentif, on a du mal à se concentrer, on a du mal à mémoriser. Et l'effort va paraître encore plus difficile et plus long en termes de travail et de mémorisation. Donc pour favoriser un bon sommeil, moi je vous encourage à couper les écrans et les téléphones avant le dîner et faire en sorte qu'ils restent éteints toute la nuit. Parce qu'un téléphone qui vibre, peu importe l'heure de la nuit, exige qu'on lise le message reçu et qu'on y réponde. Un enfant, il a besoin d'un sommeil continu. Ben, nous aussi d'ailleurs. Mais à la rigueur, nous, on assume nos actes et si on fait n'importe quoi, c'est tant pis pour nous. Mais les enfants, on est quand même responsables d'eux jusqu'à ce qu'ils soient assez matures pour pouvoir prendre ce genre de décision. Et donc, il faut éviter les sommeils hachés et supprimer les sources qui vont procurer ces hachures au cours du sommeil. Donc le téléphone, la télé dans la chambre, l'ordinateur dans la chambre qui appelle aux réseaux sociaux, qui appelle aux jeux vidéo, etc. Ça c'est vraiment, vraiment... c'est un conseil que je vous donne, mais c'est vraiment à mettre de côté pour permettre aux enfants de mieux dormir. Septième facteur, utiliser les gestes. Lorsque j'engage tout mon corps dans le processus d'apprentissage, ça active des neurones qui aident à mieux mémoriser, même si les gestes n'ont rien à voir avec le sujet de ce que j'apprends. Je peux donc marcher, faire des flexions, faire des gestes avec mes mains, danser. Enfin, il faut tenir compte vraiment du fait qu'on a besoin de bouger. Un enfant en classe, quand il va à l'école, il reste assis pendant des heures. Et on n'est pas fait pour ça. Notre corps n'est pas fait pour ça. Le problème, c'est qu'en infligeant ça à notre corps, le corps va s'effacer pour laisser le cerveau travailler. Sauf que le cerveau et le corps ont besoin l'un de l'autre. Le cerveau, il a besoin du corps pour être plus efficace, pour être plus harmonieux. On n'est pas seulement un cerveau avec quatre portes d'entrée, c'est-à-dire les deux yeux et les oreilles. On apprend avec nos cinq sens. Donc faire des gestes pour apprendre, c'est permettre à notre cerveau de mieux mémoriser, de mieux apprendre et puis aussi de faire des pauses, par exemple de 5 minutes avec des petits exercices gestuels. Tout ça, ça favorise la mémorisation. Ensuite, huitième facteur, s'entourer des bonnes personnes. Quand je dis bonnes personnes, c'est les personnes qui ont des projets, les personnes qui nous motivent, celles qui nous aident sans faire à notre place, celles qui nous valorisent, qui nous tirent vers le haut. Il faut savoir que l'entourage a une grande influence sur la motivation ou la démotivation d'un enfant. Un exemple tout bête, un enfant qui fait partie d'un groupe où on ose, où on s'entraide, où on se lance des défis, où on a des projets, et bien naturellement ça va aider notre enfant à oser, à être tourné vers les autres et à ne pas avoir peur de la difficulté et aussi avoir des projets. A contrario, un enfant qui traîne avec d'autres enfants, qui s'ennuie tout le temps, qui râle, qui passent leur journée sur les écrans, qui prennent tout travail pour une corvée, qui sont centrés sur eux, égoïstes, qui n'ont aucune imagination, eh bien notre enfant risque de devenir comme eux petit à petit. Quelqu'un a dit qu'on était la moyenne des personnes qui font notre entourage. Donc si notre entourage est composé majoritairement de personnes qui voient les choses positivement, alors il y a de fortes chances qu'on soit quelqu'un de positif. Mais l'inverse est aussi vrai. Jouer, c'est le facteur numéro 9. Le jeu n'est pas une façon parmi d'autres pour apprendre. Le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Il suffit d'observer les bébés animaux. Ils apprennent à se battre, à chasser, à respecter les codes de leur espèce, de leur famille, de leur groupe, etc. En jouant. Il en est de même des bébés. Pourquoi est-ce que ça devrait changer en grandissant? Le jeu permet des émotions positives et ce sont les émotions positives qui vont booster l'apprentissage parce que le cerveau va toujours favoriser quelque chose qui apporte une émotion plutôt que quelque chose qui est inerte, qui est froid. Donc le jeu crée un environnement propice à la mémorisation. Et puis, il permet d'apprendre en s'amusant. Ensuite, on a le facteur numéro 10, et pas numéro bis, c'est d'avoir une certaine rigueur. On l'appelle aussi autrement l'autodiscipline. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, peu importe l'âge. C'est ce qui va permettre de ne pas apprendre et de ne pas faire pour les autres, mais pour soi. Parce qu'on veut mettre en place des choses, des routines, des mécanismes qui nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, ça implique d'avoir des objectifs, on est bien d'accord, mais ensuite cette autodiscipline, c'est le fait de se tenir aux engagements qu'on a pris nous-mêmes. Il faut donc avoir un réservoir de volonté pour non seulement démarrer quelque chose, mais aussi pour aller jusqu'au bout. La rigueur, attention, c'est pas synonyme de corvée. La corvée, elle est là justement parce qu'on n'a pas appris à s'écouter et à se fixer soi-même ses objectifs et ses limites. Alors on va subir celles que les autres vont nous imposer. Quand quelqu'un nous fixe ses propres limites, quand quelqu'un nous donne ses objectifs, eh ben, on suit le projet de quelqu'un d'autre. Donc forcément on le subit et puis si ce n'est pas quelque chose qui nous passionne, ça va devenir une corvée. Alors que si on a une rigueur soi-même, si on se fixe nous-mêmes nos objectifs, si on voit une utilité aux choses qu'on fait, si on a un plan d'action, etc., eh bien ça aide dans le quotidien et puis évidemment dans les apprentissages. Donc ça, c'était le facteur numéro 10, avoir une certaine rigueur. Facteur numéro 11, bien se connaître. Bien se connaître, c'est quoi? C'est réaliser et prendre conscience de mon potentiel. Je dois déterminer comment je suis intelligente, comment je suis intelligent maintenant. Parce que ça change, ça évolue en fonction des circonstances, en fonction des expériences, en fonction du temps qui passe. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? En faisant des tests, en essayant de m'observer dans un environnement qui est plein de stimuli. Donc si c'est un environnement où il y a plein de choses variées, etc., j'essaye de prendre un peu du recul, de la hauteur, et d'essayer de voir comment je réagis dans chaque environnement, dans chaque expérience, dans chaque domaine, pour arriver à essayer de comprendre comment je fonctionne maintenant. Donc il faut pouvoir aider l'enfant à connaître ses forces et ses faiblesses, pour savoir dans quel domaine il a le plus besoin d'aide et dans quel autre domaine c'est à lui de pouvoir aider les autres. 12e facteur, l'environnement. Par l'environnement, on peut créer des conditions favorables à une mémorisation saine et efficace, ou alors pas du tout. Qu'est-ce que j'entends par environnement? J'entends par exemple l'éclairage et la luminosité. Par exemple, des lumières criardes, ça va agresser, ça va fatiguer. Des lumières trop faibles, au contraire, vont demander trop de travail, trop de concentration au niveau des yeux, ce qui peut aussi là engendrer des crispations et de la fatigue. On peut donc privilégier une lumière douce, mais qui permet de lire sans se fatiguer. La lumière, elle doit être un peu au-dessus, sur le devant ou sur le côté, mais jamais derrière, sinon on fait obstacle à la lumière. Pour l'environnement, j'entends quoi d'autre? J'entends un espace rangé. J'en ai déjà parlé souvent, surtout si vous êtes sur le blog, si vous me suivez sur la chaîne YouTube. Mais un espace encombré, c'est autant de choses qui vont attirer le regard et rendre difficile l'attention et la concentration. Un endroit où les objets sont rangés, où le sol est dégagé, on peut circuler tranquillement, l'air, la lumière circule, où l'espace de travail est libre et disponible, où les murs ne sont pas jonchés de photos et de posters qui vont nous déconcentrer. Un endroit comme ça, c'est beaucoup plus facile de trouver ses affaires, c'est beaucoup plus facile de se mettre à travailler, de trouver la motivation, de se sentir bien. Et c'est dans un environnement où on se sent bien que c'est facile d'apprendre. Alors il n'y a pas que la chambre qui doit être rangée, toute la maison. Parce que je vais vous en parler juste un peu après, mais lorsqu'on apprend dans différents endroits, ça booste la mémoire. Alors pour que ce soit efficace, il faut que tous les différents endroits de la maison soient rangés et désencombrés. Ah oui, on n'a plus de fausses excuses. Un autre élément de l'environnement, quand je parlais d'environnement pour ce 12e facteur, c'est la température. Alors là, vous allez être assez étonnés, mais il y a une expérience qui a été faite où on a créé deux groupes. Les deux groupes avaient la même tâche, la même fonction, c'était de repérer les erreurs dans un texte. Qu'est-ce que c'était comme erreur? C'était des fautes de grammaire, c'était des fautes de frappe, des erreurs de conjugaison, etc. Donc les deux groupes avaient exactement le même texte et la même consigne. À la fin de l'expérience, le premier groupe a trouvé 75% des erreurs, alors que le deuxième groupe n'a trouvé que 50% des erreurs. Il y avait une seule différence entre les deux groupes, c'était la température de la pièce. Le premier groupe, donc celui qui a trouvé le plus d'erreurs, qui a donc obtenu les meilleurs résultats, il était placé dans une pièce à 19,4 degrés. Le deuxième groupe, lui, était dans une pièce chauffée à 25 degrés. On estime aujourd'hui que la température optimale de l'homme, c'est 22 degrés. Même si, bien sûr, l'homme peut s'habituer à des climats et des températures beaucoup plus froides et beaucoup plus chaudes. Mais 22 degrés, ce serait une température, entre guillemets, idéale pour le corps, pour le cerveau et pour le travail. Donc, quand on augmente la température, le travail intellectuel diminue. Alors que quand on baisse la température, la performance intellectuelle est plus efficace. Donc, si c'est possible pour vous, veillez à ce que la température de la pièce où votre enfant travaille et où il apprend, veillez à ce que cette pièce ne soit ni surchauffée ni trop froide. En cas de chaleur forte, vous pouvez aérer régulièrement, toutes les demi-heures, toutes les heures. Vous allez voir après aussi que c'est très bon pour apprendre le fait de renouveler l'air. On passe au facteur numéro 13, c'est de faire de l'exercice, du sport. Ça vient un petit peu compléter un facteur qu'on a vu plus haut qui était la gestuelle. Faire de l'exercice, du sport. Je vais me baser aussi sur une autre expérience qui a été faite où on a montré 90 photos à un groupe de plusieurs personnes. L'objectif pour toutes ces personnes, c'était de se souvenir des photos quelques jours après. Ensuite, une fois que toutes les personnes ont vu les photos, les 90 photos, on a divisé le groupe en deux. Le groupe 1 était installé dans une pièce avec des machines de musculation. Et il fallait faire 50 fois un mouvement. Ce mouvement était assez difficile parce que les poids étaient très difficiles à lever. Donc il fallait beaucoup d'efforts et faire travailler énormément ses muscles pour pouvoir faire ses exercices. Donc 50 fois le même mouvement. Le deuxième groupe, lui, il avait les mêmes machines. Il était aussi dans une salle de sport avec les mêmes machines. Il devait faire les mêmes exercices physiques, c'est-à-dire 50 fois le même mouvement. Sauf que cette fois, les machines, elles avaient été modifiées et que le poids était minime. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, au lieu de soulever avec ses jambes 30 kilos, ben là, il fallait soulever 10 kilos, par exemple. Donc, l'exercice physique, comme je vous l'ai dit, était beaucoup plus facile pour les personnes du groupe 2. Deux jours plus tard, on a remontré les 90 photos aux deux groupes et on a rajouté 180 nouvelles photos. Ensuite, on leur a demandé de reconnaître, de reciter les photos qu'ils avaient vues. Donc, le groupe qui a levé les poids très lourds a obtenu de meilleurs résultats de mémorisation. La conclusion est la suivante. Le fait de faire des petits exercices physiques comme des pompes, lever des poids ou faire quelque chose qui nous demande un effort physique, de l'endurance, etc., ça améliore de 20% la mémorisation. 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20%. D'où l'importance de faire du sport, mais aussi de faire des pauses entre deux séances de mémorisation où on peut faire des flexions, des pompes ou d'autres exercices faciles à faire sans matériel. On passe au facteur numéro 14 qui est de changer la police du texte à apprendre. Alors ça aussi, c'est une autre expérience assez intéressante. On a réuni des étudiants avant un de leurs examens, donc c'était un examen dans leur cursus universitaire, et ils ont reçu le contenu à apprendre au format texte avec des images, donc des polycopiés, etc. On a divisé les étudiants en deux groupes. Le premier groupe a reçu les textes et les schémas originaux des professeurs, donc ce que les professeurs donnent chaque année à leurs étudiants pour cet examen. Et puis le deuxième groupe a reçu les mêmes documents mais avec une modification. Les chercheurs avaient modifié les textes, mais pas les schémas. En fait, ils ont juste changé la forme, mais pas le contenu. Et c'est ce deuxième groupe qui a obtenu de meilleurs résultats à l'examen. La seule chose qui a été changée, c'est que les textes avaient été écrits dans des polices différentes de celles qu'on lit habituellement. C'est-à-dire que sur l'ordinateur, en général, quand on imprime des textes, on est soit en Arial, soit en Times New Roman. Et bien, en fait, là, ils ont testé avec des nouvelles polices comme Comics, Gothic, Cursiva. Et les étudiants, pourquoi ils ont eu de meilleurs résultats? Tout simplement parce qu'ils ont dû se concentrer plus pour déchiffrer ce qu'ils avaient sous les yeux, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de lire dans cette police. Donc ils étaient plus attentifs, ils se concentraient plus. Et comme ils étaient plus concentrés et attentifs, eh ben ils ont mieux mémorisé. Donc plus un texte est difficile à lire, pas dans le sens illisible, mais dans le sens où ça nous demande une attention supérieure parce qu'on est moins habitué à cette écriture. Donc plus un texte est difficile à lire, plus le cerveau va se concentrer sur cette tâche même de lecture et il retiendra mieux l'information. Donc si ça vous est possible, utilisez des polices différentes qui sortent du lot. Ça, c'est vraiment super intéressant à faire quand on est enseignant et qu'on imprime régulièrement des polycopiés pour nos élèves. Facteur numéro 15, une bonne respiration. Notre cerveau a besoin d'oxygène. Il consomme 20% de tout l'oxygène du corps. Le cerveau consomme 20% de tout l'oxygène du corps, alors que le cerveau ne pèse que 2% du poids du corps. Donc son besoin d'oxygène est énorme. Alors comment est-ce qu'on fait pour bien s'oxygéner? Déjà, être beaucoup dehors. J'en parle tout le temps sur le blog, j'en parle souvent dans mes vidéos. Mais voilà, on a la possibilité de respirer l'air extérieur gratuitement. Et non seulement c'est bon pour l'oxygénation du cerveau, mais c'est aussi bon pour le lien vital à la nature. Vous le savez sûrement, mais d'être au contact de la nature, ça booste tout. Toutes les capacités d'apprentissage, ça facilite n'importe quel apprentissage. Donc favorisez des moments de jeu à l'extérieur, des balades, des sorties, de manière quotidienne. Ensuite, on aère la pièce où l'on travaille, toutes les demi-heures, pour refaire le plein d'air frais et éviter que la pièce ne soit trop chaude. Et puis, on peut faire aussi des exercices de respiration, comme la respiration 4-7-8. Il existe d'autres exercices de respiration, mais celle-là est assez sympa. Moi, je l'utilise souvent. Donc, en fait, pour bien s'oxygéner, on peut faire cette respiration 4-7-8 trois fois d'affilée. 4-7-8, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'inspire sur 4 temps. Voilà, en comptant jusqu'à 4 dans ma tête. Je bloque ma respiration sur 7 temps. Et j'expire sur 8 temps. Et je recommence et je fais ça trois fois. L'alimentation, c'est le facteur numéro 16, une alimentation saine. Qu'est-ce que j'entends par alimentation saine? C'est pas l'objet de ce programme, donc je vais aller très très rapidement. J'entends par là boire de l'eau, boire que de l'eau, ou en très 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 grande majorité de l'eau, sans alcool et sans sucre. Faut savoir que les neurones transmettent les informations grâce à des flux électrochimiques dans le cerveau. Donc c'est comme s'il y avait de l'électricité, enfin c'est pas comme si, c'est il y a les messages qui passent sous forme de flux électrique. L'eau, c'est l'un des meilleurs conducteurs de l'électricité. Donc boire de l'eau régulièrement, ça permet de relancer la machine à penser et à mémoriser, de permettre à toutes les informations, tous les flux électrochimiques de bien circuler. Ensuite, qu'est-ce que j'entends par alimentation saine? C'est manger beaucoup de fruits et de légumes. Principalement cru, parce que c'est là qu'il y a le plus de vitamines et de calcium, et que c'est des éléments essentiels pour le bon fonctionnement des cellules du cerveau. Mais on peut aussi en manger des cuites de temps en temps. Évidemment, on privilégie les choses sans sucre et on évite le sucre raffiné. Alors, comment on évite le sucre raffiné qui est présent dans quasiment toutes les choses déjà fabriquées? Déjà, c'est de faire soi-même ses gâteaux et ses sucreries, etc. Et ensuite, c'est de mettre du miel plutôt que du sucre raffiné. Ou alors, vous pouvez acheter du sucre de canne non raffiné, ça existe. Il est brut, il a un goût un petit peu de réglisse, certains aiment moins. Mais voilà, c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus facile à digérer et surtout bien meilleur pour le corps. Et puis, on mange aussi du poisson gras, des fruits à coque, de l'huile de noix qui permettent de construire de nouveaux neurones grâce aux oméga-3. Voilà, et puis le 17e facteur qui permet de mieux apprendre, c'est le fait d'avoir des temps de rêverie. Des temps de rêverie, c'est quoi? C'est des temps morts, des temps de pause, des temps où on laisse ses pensées vagabonder, où on rêvasse, où on s'ennuie un peu, où on n'a rien prévu. Parce que quand l'esprit vagabonde, en fait, il est en train de synthétiser les nouvelles informations qu'il a recueillies et il est en train de faire des ponts entre chaque information. Il est en train de créer des liens entre les anciennes informations déjà enregistrées et celles, les nouvelles qu'il vient d'avoir en stock, et il est en train de les classer. Et puis, quand le cerveau ne s'occupe plus du moment présent, il se penche sur le futur. Et du coup, il envisage l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'anticipation. Donc ces temps sont très importants, ça permet aussi de se projeter, de faire des projets, de nourrir des désirs pour créer quelque chose plus tard, pour envisager comment peut être l'avenir. Donc on a besoin de ces temps morts, de ces temps de calme, de ces temps d'ennui, de ces temps de rêverie, pour laisser le cerveau faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est autant valable pour les enfants que pour nous. Mais j'ai envie de dire encore plus pour les enfants qui accumulent, assimilent énormément d'informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont très, très sollicités et ils ont besoin de temps pour consolider toutes les informations emmagasinées. Voilà donc 17 facteurs permettant de mieux apprendre, de créer un environnement propice à la mémorisation facile et efficace. Il y a sûrement d'autres facteurs parce que cette liste est non exhaustive. L'objectif n'est pas tellement de s'attarder sur ces facteurs et de fouiller pour trouver tous les éléments, mais c'est plutôt de prendre conscience qu'on peut apporter des petits plus assez facilement. Après, ce qui va vraiment changer dans la façon d'apprendre d'une personne, eh bien, ce sont les méthodes utilisées. Et pour ça, je vous propose de passer à la pratique avec 20 mises en pratique concrètes. Ce sont des outils, des jeux, des exercices, des méthodes que vous pourrez tester sur vous-même, mais surtout, vous pourrez les proposer aux enfants pour leur permettre non seulement de mieux mémoriser sans galérer, sans se décourager, et puis de s'amuser, mais aussi de prendre confiance en eux et de trouver des méthodes qui fonctionnent vraiment. Voilà, donc je vous retrouve soit dans le PDF qui réunit les 20 exercices, les 20 outils que vous pouvez télécharger, imprimer et les utiliser tout de suite. Et puis, je vais quand même vous les présenter en format audio pour que vous puissiez écouter une première fois tous ces outils. Et puis ensuite, vous aurez plus qu'à vous reposer, à prendre le temps à tête reposée plutôt, devant le fichier PDF. Voilà, je vous laisse ici, je vous retrouve dans la pratique, 100% pratique. C'est parti.